Audiolib présente « Viens, on se parle » de Omar Sy et Elsa Vigoureux, lu par les auteurs, avec la participation de Hélène Sy.
Bisous.
Avant-propos. Commençons par ce que ce livre n'est pas. Ce livre n'est vraiment pas une biographie qui raconterait toute la vie d'Omar Sy, dans l'ordre, comme si elle était déjà finie. Vraiment pas. Ce livre n'est pas non plus un de ces documents chocs qui révéleraient la vérité cachée de la star, de l'acteur, de l'humoriste. Pas du tout. Ce livre est encore moins un roman, puisque rien n'est inventé. Les ressemblances avec des personnages, des lieux, des situations de la vraie vie ne sont absolument pas fortuites, mais recherchées. Ce livre n'est surtout pas une immersion en mode grand reportage. C'est plutôt une sorte de carnet de bord. Disons que ce livre n'est pas du tout objectif. C'est une manière de voir Omar Sy, une manière de l'entendre, d'explorer ses limites, d'apprécier ses humeurs, de regarder comme il bouge, de constater comme il s'adapte à tout. C'est une expérience humaine, pour lui qui ouvre ses portes, pour moi qui suis consciente que je deviens un élément de son décor. Une aventure littéraire aussi, pour lui qui est un professionnel du récit, pour moi qui écris. Précisons les circonstances. C'est un point de vue fondé sur une somme d'échanges qui se sont déroulés quand Omar Sy le voulait, quand je me manifestais aussi, sur une période libre, pas arrêtée à l'avance, dans un cadre souple, avec cette possibilité que tout s'arrête, n'importe quand, si l'exercice devenait trop lourd, s'il ne trouvait pas sa place dans l'existence d'Omar. Les rencontres se sont étirées entre septembre 2021 et février 2024. En France, au Sénégal, aux États-Unis, par téléphone, sur WhatsApp aussi. Il faut noter qu'un lien s'est tissé au fil du temps, tantôt distant, tantôt proche, parfois irrégulier, mais solide. J'étais à l'initiative, Omar au réglage. Avouons l'absence de méthode, mais l'existence de règles. Pas de questions préparées à l'avance, ni de réponses formatées. Les interlocuteurs sont à égalité, débarrassés de tout a priori. La journaliste note tout, si elle veut, pour comprendre, mais Omar Sy décide de ce qu'on peut dire ou non sur sa vie privée dans le livre. Il y a deux auteurs ici. Tout est libre, on peut passer du coq à l'âne, on peut improviser des pirouettes, des esquives, les vannes sont tolérées, les secondes d'ennui comptent, autant que les paysages ont valeur de contexte. Reconnaissons le maître du jeu, le présent. C'est là qu'Omar Sy habite, c'est là qu'il prend sa longueur d'avance, là où tout se transforme, dans cet espace insaisissable où personne n'est rien de plus ni moins qu'un souffle. Le présent, c'est le temps sacré d'Omar Sy. Et comme c'est lui qu'on cherche, c'est là qu'il faut être. D'où la forme de ce livre, un journal. Pour consigner ses rencontres et échanges, pour isoler le présent, saisir son épaisseur, sentir sa profondeur. Le présent, c'est le temps de ces moments qu'on oublie. Le journal les met en mémoire, il ne raconte pas d'histoire, il agrège des bouts de vie qui forment un récit. C'est comme un puzzle, pièce après pièce, à mesure qu'on les assemble, on devine ce qui s'y joue. Le sens est dans tous les instants, tapis au creux des apparences anodines, niché dans des détails qui n'ont l'air de rien, il sommeille partout et se révèle d'un coup. Omar Sy, lui, dirait juste
« Ce livre, c'est un truc simple, chacun lira ce qu'il veut. »
Prologue. J'ai rencontré Omar Sy pour la première fois en février 2020, grâce à Assa Traoré, pour qui j'avais écrit « Lettre à Adama ». Omar Sy est la première personnalité à lui avoir témoigné son soutien aussitôt après la mort de son frère le 19 juillet 2016 entre les mains des gendarmes de Persan. Il avait écrit sur Twitter le 21 juillet 2016 « Toutes mes prières pour Adama Traoré, toutes mes pensées pour ses proches. » Que justice soit faite en sa mémoire, qu'il repose en paix. En juin 2020, la France est dans la rue. L'onde de choc provoquée par la mort de George Floyd lors d'une violente arrestation policière à Minneapolis secoue le monde entier. Victime d'un plaquage ventral avec la nuque écrasée par le genou du policier, ce père de famille afro-américain, âgé de 46 ans, s'est plaint à 27 reprises de ne plus pouvoir respirer. Et au bout de 9 longues minutes, George Floyd